Olivier Germain Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour écrire votre portrait de Marco Polo, vous l'avez pas mal fréquenté. Alors, qui était vraiment ce marchand vénitien du XIIIe siècle ?
Il y a pas mal d'énigmes autour de Marco Polo, puisque nous n'avons qu'un seul texte, qui est le récit qu'il n'a même pas écrit tout seul, puisqu'il l'a écrit avec... c'est un ouvrage qui a été écrit à quatre mains, qui a pour titre « Le devisement du monde », écrit avec Rustichello da Pisa, avec lequel, à son retour de Chine, Marco Polo s'est trouvé prisonnier à Gênes. Donc ça, c'est à partir de ce document que nous connaissons la grande épopée de Marco Polo, qui, avec son père et son oncle, se rend en Chine, il reste des années et des années, et revient. Alors ensuite, on peut étayer les informations avec des documents des archives chinoises, c'était l'époque de la dynastie mongole des Yuan, des documents sur Venise, des documents des grands travaux qui sont faits par les historiens. Mais en fait, nous n'avons pas énormément de sources. Et ça me plaisait au départ qu'il y ait une sorte de flou. Cela dit, le principe de ce livre et de cette collection est de ne pas se laisser aller à son imagination. Alors j'étais un petit peu frustré de temps en temps, et je dois vous dire sous forme de confidence, en quelque sorte, qu'une fois, Marco Polo disant dans son livre « Tiens, nous nous sommes arrêtés là pendant un an, et les causes de cet arrêt ne sont pas tellement importantes, donc n'en parlons pas. » Alors là, je me suis amusé, et en le signalant au lecteur, bien sûr, je ne voulais pas tricher, je me suis amusé à faire une scène un peu hollywoodienne, avec, bien évidemment, Marco Polo, tout jeune, tombe amoureux d'une chinoise, etc., etc. Mais en dehors de cela, j'ai voulu rester quand même très près de la principale source que nous avons, c'est-à-dire de ce magnifique livre qui est Le devisement du monde.
Mais vous êtes interdit la fiction. Alors est-ce qu'on pourrait dire que Marco Polo était un des premiers écrivains voyageurs de l'Occident, avec peut-être Guillaume de Rubruck ?
Ça dépend ce que vous appelez Occident, parce qu'il me semble qu'un Ulysse, il y a fort longtemps, au 8e siècle avant Jésus-Christ, était aussi un grand voyageur. Et vous avez quand même Hérodote, vous avez des Grecs, vous avez des Égyptiens, vous avez des voyageurs arabes. Disons que c'est un des grands voyageurs du Moyen-Âge, il y en a eu d'autres avant, mais c'est surtout un de ceux qui est resté le plus longtemps en Chine, parce que Guillaume de Rubruck, que vous venez de citer, a fait un aller-retour extrêmement rapide. Lui est allé à toute vitesse, envoyé par Saint-Louis, pour essayer d'analyser ce qu'était la situation des Mongols. Et pourquoi Saint-Louis s'y intéressait, ainsi que le pape, ainsi que l'empereur d'Allemagne? Vous avez envie de connaître la réponse? La voici. C'est que les Mongols étaient arrivés aux portes de Paris des générations auparavant, avec le grand-père de celui qui est, pendant notre période, empereur, le grand-père de Kublai Khan, qui était Genghis Khan. Rien que son nom fait peur, n'est-ce pas? Bon, ils étaient arrivés. Ensuite, ils étaient repartis, mais ils faisaient peur. Entre-temps, les Occidentaux, à travers avec les croisés, avaient pris pied, repris pied, puisque les terres avaient été chrétiennes à l'époque de Byzance, avaient repris pied dans la Terre Sainte, et avaient comme adversaires les musulmans. Et les Mongols attaquaient les musulmans. Ils ont pillé de manière scandaleuse la ville de Bagdad, qui est restée une sorte de terrain de ruine après leur passage. Et donc l'idée avait germé, aussi bien près de Saint-Louis que du pape que de l'empereur d'Allemagne, d'essayer d'aller trouver une alliance avec les Mongols pour prendre les musulmans en tenaille. C'était l'objet du voyage de Guillaume de Rubruck. Et ce sera aussi l'objet du voyage de retour du père et de l'oncle de Marco Polo. Alors là, il faut situer les choses. Donc nous sommes à Venise en 1253 et il se trouve que le père de Marco Polo, Niccolo, part avec son frère, ce sont des marchands, il part pour aller faire un peu du commerce du côté de la mer Noire ou éventuellement du côté de l'Iran. Et toute une série de circonstances, des guerres, des révoltes, le fait que l'empereur les demande à sa cour, font qu'ils s'en vont pendant à peu près 14 ans. Mais ils reviennent avec un message, c'est-à-dire que Kublai Khan, l'empereur mongol de Chine, s'intéresse au christianisme. Sa mère était une chrétienne nestorienne. Il y a un message pour le pape. Donc il y a une sorte de résonance entre le désir des grandes puissances européennes d'entrer en relation avec les Mongols et le désir des Mongols d'entrer en relation avec la papauté.
Comment vous expliquez l'extraordinaire longévité du succès du devisement du monde, car à part la Bible, aucun best-seller n'a fait mieux ?
Écoutez, c'est une aventure étonnante. Sur un plan littéraire, je ne le placerai pas au niveau d'autres livres de voyage, comme des récits qui ont pu être faits par Christophe Colomb, ou au-dessus de tout, bien sûr, l'Odyssée d'Homère. Mais c'est une aventure étonnante que ces trois Vénitiens, et principalement Marco, ce jeune Marco, qui, alors qu'il a à peu près une vingtaine d'années, arrive à la cour du plus puissant empereur du monde, devient conseiller de cet empereur, reste pendant très longtemps auprès de lui, accomplit pour lui des missions et ensuite revient avec des souvenirs. Donc l'épopée en elle-même est absolument passionnante. Et effectivement, ce livre a eu du succès. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de restaurants qui s'appellent Marco Polo aussi.
Certes. Alors finalement, est-ce qu'il est vraiment allé en Chine, ce Marco Polo ? Parce qu'à la fin du XXe siècle, on a commencé à dire que ce n'était pas vrai, qu'il ne serait peut-être pas allé.
Alors écoutez, je ne l'ai pas accompagné, mais je m'appuie quand même sur les meilleures sources des meilleurs historiens. Aucun des grands historiens de l'époque ou du Moyen-Âge ne conteste l'existence de la présence de Marco Polo en Chine. Il y a une personne qui l'a contesté, et cette personne n'a aucun argument solide. Marco Polo est allé en Chine. Cela dit, dans son livre, il exagère. Il dit par exemple qu'il est allé au Japon. Il n'est pas allé au Japon, maintenant on en est sûr. Il dit par exemple qu'il a été gouverneur d'une province. Il n'a pas été gouverneur d'une province, on le trouverait dans des archives chinoises ou mongoles. Il a été probablement le responsable du commerce du sel dans cette province, qui est déjà très important, parce que le sel générait beaucoup d'argent pour le trésor de l'empereur de Chine. Donc comme il y a des exagérations, on a cru que tout était faux. Non, Marco Polo est allé en Chine, Marco Polo a été le conseiller de l'empereur. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a une forme d'exagération.
Alors on peut dire que ce n'est pas un reportage, mais plutôt un récit poétique.
C'est un ensemble. C'est à la fois c'est le récit d'un commerçant. Donc il était extrêmement précis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a bien pu vérifier. Extrêmement précis. Quand il est question de la production de telle province, quand il est question de ce que peut rapporter un quintal de riz, de blé, de ceci, de cela, les livres de comptes, tout ça est extrêmement bien tenu. Ensuite, il est très intéressant sur certaines mœurs que les ethnologues ont pu vérifier, notamment des mœurs parfois un peu étonnantes pour nous, qui se trouvent dans les hauteurs de l'Himalaya, où les maris prêtent très gentiment leur épouse aux voyageurs égarés dans les neiges, ou bien alors les mœurs qui se trouvaient dans le sud de la Chine, au contraire extraordinairement rigoureuses. Donc c'est un document sociologique intéressant. Il y a un portrait de Kubilai Khan qui est aussi passionnant. Et puis il y a l'univers médiéval. Si on s'intéresse à ce qu'est l'univers mental médiéval, et en fait c'est ce qui moi m'a le plus intéressé, une chose, la Bible est prise au pied de la lettre. Quand Marco Polo se trouve en Turquie actuelle, près du mont Ararat, et qu'on lui dit « Regardez là-haut, ce sont les restes de l'Arche de Noé », il y croit dur comme fer. Quand on lui montre en Perse trois cadavres en disant « Ça sont les rois mages », mais il y croit tout à fait. De même, est-il absolument persuadé que quelque part se trouve le paradis terrestre ? Donc la Bible est, pour les gens de cette époque-là, une réalité aussi solide que la science physique pour nous aujourd'hui. Et en analysant cette époque, moi qui ne suis pas historien, je suis un écrivain, mais je ne suis pas un historien, j'ai pu tenter de rentrer dans la mentalité de ce qu'étaient nos ancêtres il y a 7 siècles. Donc c'est passionnant comme aventure.
Donc finalement, ce devisement du monde qu'on appelait aussi le livre des merveilles, et ça va bien dans le sens de ce que vous dites, on y parle de merveilles, c'est une tradition d'écriture de rapports de voyage, parce qu'après lui, il y a eu aussi un livre des merveilles.
Oh, il y en a eu plusieurs, oui. Il y avait beaucoup de récits de voyage à l'époque. Et donc celui de Marco Polo est unique compte tenu de l'aventure, mais Rubruck, par exemple, que vous avez cité, lui-même est revenu aussi avec un récit, donc il n'est pas le seul. Mais il y avait aussi un certain nombre d'écrivains qui racontaient n'importe quoi. À partir de cela, les médiévistes ont essayé de faire le tri. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour dire quel est le livre qui dit la vérité, celui qui dit des choses fausses, mais je me suis appuyé, en tout cas pour ce Marco Polo, sur les meilleurs spécialistes.
Alors, ce livre a aussi inspiré Christophe Colomb. Ça prouve quand même qu'il n'était quand même pas si ridicule.
Alors, ce livre a mis du temps avant d'avoir du succès. Mais quand il a commencé à avoir du succès, plutôt vers le XIVe siècle, XVe siècle, à ce moment-là, le succès était général dans toute l'Europe. Et il se trouve qu'on a retrouvé un manuscrit du Devisement du Monde, lequel Devisement du Monde, qui avait été écrit en vieux français par Rusticello da Pisa, ensuite traduit en latin, en castillan, en catalan, en portugais, j'en passe. On a retrouvé donc un des exemplaires dans une bibliothèque annoté par Christophe Colomb, où il souligne particulièrement les passages dans lesquels Marco Polo signale qu'il y a beaucoup d'or au Japon, où, je le redis, Marco Polo ne s'est pas rendu. Donc on peut, là c'est un peu audacieux, mais on peut considérer que une partie des raisons de cette immense aventure qui a été montée par Christophe Colomb est due en partie au livre de Marco Polo et alors qu'il promettait.
Ça veut dire que des gens sont allés au Japon et y ont dit à Marco Polo.
Très sûrement. D'ailleurs, partout où il fait le récit d'un lieu où il ne s'est pas rendu, il a quand même des sources qui sont relativement fiables. Cela dit, pour le Japon, il exagère quand il dit qu'il suffit de se baisser pour trouver de l'or. Quelqu'un a dû voir le toit du temple d'or et lui dire « il y a beaucoup d'or au Japon, il y avait de l'or au Japon, comme il y en avait énormément en Birmanie, comme il y en avait aussi encore ». Donc tout cela est certainement exagéré.
Alors les polos, à un moment, voulaient partir d'Ormuz par la mer. Et puis ils ont abandonné l'idée et puis ils sont passés par la voie terrestre. Et pourquoi ?
Vous savez, quand on est vénitien, on a deux qualités. On a un coup d'œil extrêmement rapide pour tout ce qui est de l'ordre du commerce. Les prix, combien on peut gagner, qui vous arnaque, qui ne vous arnaque pas. Ça, le coup d'œil, il est immédiat. Je pense que quand on tète le lait de sa mère, le lait transmet déjà le sens du commerce. Il y a un deuxième sens que tout vénitien a, c'est le sens des bateaux. Parce que Venise n'existe que par le bateau. Et la richesse de Venise, qui avait des comptoirs, mais qui n'avait pas un empire, la richesse de Venise, c'est le bateau. Les Vénitiens étant doués effectivement d'un coup d'œil très sûr en ce qui concerne les bateaux, s'aperçoivent que les bateaux qui pourraient aller d'Ormuz en Inde, et ensuite il faudrait trouver un autre bateau qui serait chinois pour aller d'Inde en Chine, mais en tout cas ceux qui, de la Perse, de l'Iran, se rendaient en Inde, n'étaient pas suffisamment sûrs pour eux. Alors ils vont accomplir la route terrestre, qui va être beaucoup plus longue, puisque en tout, depuis leur départ de Venise, ils vont mettre 4 ans avant d'arriver à la cour de Kubilai Khan.
Alors, on a coutume de dire que Marco Polo est un voyageur, ce qui est vrai, mais il a passé une vie d'expatrié, installé 24 ans dans un pays étranger, et il a travaillé pour le gouvernement de son pays d'accueil. C'est d'abord ça, la vie de Marco Polo.
Toute la première partie de sa vie. Alors, il y a la seconde partie, quand il rentre, il a de l'argent, il va se marier. Il va faire ce qu'on appelle un beau mariage, mettons beau entre guillemets, c'est une riche famille. Donc ça prouve qu'il est revenu quand même avec pas mal de diamants. On ne sait pas exactement la quantité de fortune avec laquelle il est revenu, mais sûrement assez consistante. Et ensuite, il aura 3 filles. Il y a toute une partie de la vie de Marco Polo après son tour que nous ignorons. Donc ce que nous connaissons, c'est effectivement toute cette partie pendant laquelle il est au service d'un seigneur étranger. Mais ça peut nous sembler relativement étonnant, ça ne l'était pas à l'époque, parce que d'abord, il reste profondément vénitien dans sa mentalité, et d'ailleurs, au bout d'un moment, son père, son oncle et lui ont envie de repartir. Ils ont envie de repartir. Mais à partir du moment où on a donné sa foi à un seigneur, on respecte la parole donnée. Or, il y a cette scène assez belle où le père de Marco Polo, devant Kubilai Khan, dit « Voilà, c'est mon fils, il peut vous servir ». À partir de ce moment-là, on peut considérer que, dans l'idée médiévale, Marco Polo devient le chevalier de l'empereur, et donc il le servira avec honnêteté, et l'empereur le sait. Pourquoi s'appuie-t-il sur Marco Polo ? Pas le seul. Parce que Kubilai Khan, qui était très madré, on le voit dans ses portraits, on le voit d'après sa politique. C'est un homme brutal, jouisseur, égoïste, etc., mais un très grand politique. Il a lui aussi un très bon coup d'œil. Il se méfie un peu des Mongols, qui sont des magnifiques soldats, mais qui n'ont pas une très grande finesse diplomatique. Il se méfie encore plus des Chinois, parce qu'il est l'empereur des Chinois, mais lui vient du monde extérieur, il vient de la Mongolie, et il domine un peuple qui, culturellement, était très en avance par rapport aux Mongols. Et donc les Chinois, dans leur fort intérieur, méprisent cet empereur mongol, donc sont prêts à le trahir à la première occasion. Alors il s'appuie parfois sur des musulmans, notamment son ministre des Finances sera un musulman, des tribus turkmènes, mais il aime bien aussi s'appuyer sur Marco Polo, et d'après ce que nous pouvons imaginer, Marco Polo aurait été fidèle pendant toute sa vie, enfin toute sa vie en Chine.
Alors on a évoqué tout à l'heure la mère de Kubilai, qui était chrétienne nestorienne. Est-ce que les Nestoriens étaient bien implantés en Asie au XIIIe siècle ?
Alors tout au long de la route de la soie, il y a des chrétiens nestoriens. Un mot sur les Nestoriens, ils ne sont pas rattachés à Rome, ils ne sont pas rattachés à Byzance non plus. C'était une forme de christianisme différent des autres, qui était présente en Perse d'une manière assez abondante, dans l'Irak d'aujourd'hui, en Perse, et tout au long de la route de la soie. Et il y avait des poches de christianisme aussi en Mongolie. Pas vraiment dans la Chine des Chinois, pas dans la Chine des Han, mais des Mongols, souvent d'origine turkmène, s'étaient convertis au christianisme. Et puis, au fur et à mesure de l'islamisation de toute cette région et du choix que les Mongols vont faire du bouddhisme de type tibétain, les rares poches de christianisme vont finir par disparaître.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Nestoriens sur la surface de la Terre.
Il y a aujourd'hui encore quelques petites poches de Nestoriens, toute petite minorité en Iran et une toute petite minorité en Irak, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'était le nestorianisme au XIIIe siècle.
Nous écoutions Olivier Germain Thomas à propos de sa biographie de Marco Polo parue chez Folio Gallimard. La suite de cet entretien sera diffusée le mercredi 23 novembre dans la prochaine édition de Bruit de Chine.